L'université Paris-Nanterre héberge le Centre de recherche en ethnomusicologie. Un centre consacré à l'étude des pratiques et des savoirs musicaux du monde entier qui rassemble l'incroyable fonds d'archives sonores du CNRS Musée de l'Homme. Depuis les enregistrements de terrain, réalisés sur des cylindres de cire au début du siècle dernier par des ethnologues et des ethnomusicologues, aujourd'hui plus de 48 000 documents sonores ont été numérisés. Visite en compagnie de Joséphine Simoneau, ingénieure au Centre de recherche en ethnomusicologie du CNRS.
L'objectif était de collecter un patrimoine musical déjà en voie de transformation, voire de disparition. Ce patrimoine essentiellement, évidemment, dans les anciennes colonies de la France, donc en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, au Vietnam notamment. Il y a eu aussi des collectes plus ethnographiques ou linguistiques, mais la grande majorité de ce qui intéressait le département de la musique du Musée de l'Homme, c'était évidemment la musique. Et donc, on a essentiellement, évidemment, de la musique traditionnelle dans nos archives.
Si on rentre dans une sorte de grande bibliothèque avec des boîtes qui sont remplies, j'imagine, de cassettes ou de disques ou de peut-être même de cylindres.
Voilà, donc là, on a les 70 tours, une partie de 70 tours parce qu'il y en a beaucoup à la BNF. Les 33 tours, dont certains très anciens. Et ensuite, les disques publiés depuis les années 30-40 jusqu'à nos jours. Et puis, tout ce qui est bande magnétique, par contre, là, c'est conservé à la BNF dans un environnement climatisé. Donc, on entreprend depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans maintenant, un long travail de numérisation, de segmentation, d'identification. Et là, c'est un énorme chantier qu'on a commencé à faire avec les moyens du bord en interne, puis après avec l'aide du ministère de la Culture et aujourd'hui la Bibliothèque nationale aussi qui a pris le relais sur les dernières numérisations.
Vous avez combien de documents sonores ici ?
Alors, on a répertorié déjà près de 70 000 items audio, donc ça, c'est ce qui est déjà décrit. Et actuellement, on a indexé, décrit 48 000 fichiers sons et vidéos dans notre base de données. On a suivi vraiment l'évolution de l'histoire des supports audio. Tous les supports, même on a des supports très rares comme le fil magnétique, je crois qu'on a à peu près tous les supports qui existent. Et on a une collection exceptionnelle que nous envient beaucoup de pays étrangers parce qu'il y a des choses ici qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors, on a hérité d'une collection de cylindres enregistrés lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. On a plusieurs centaines de cylindres qui sont évidemment des enregistrements historiques. Je crois que c'est parmi les plus anciens de cylindres enregistrés en France. Je vais vous faire écouter un de nos plus vieux enregistrements qui a été fait par André Scheffner lors de la mission Dakar-Djibouti dans les années 30. Et vous allez pouvoir reconnaître sa voix qui annonce ce qu'on va enregistrer et tous les bruits mécaniques du support de l'époque.
Mission Dakar-Djibouti, cylindre 21, Garoua, 16 janvier 1932. Trois Algaïta et 5 tambours poulpés. Une algaïta et deux tambours, une autre algaïta et un tambour.
En fait, il y avait un pavillon qui concentrait le son sur une membrane. Cette membrane mettait en vibration un stylet et ce stylet gravait une surface tendre qui était de la cire, un mélange de cire d'abeille et d'autres matériaux. Et ce sillon qui était gravé pouvait être lu et même on pouvait aussi poncer le cylindre pour faire d'autres enregistrements. Ça permettait de faire des enregistrements un peu partout, sans électricité. Voilà, mais évidemment, la qualité est assez médiocre.
Qu'est-ce que vous nous faites écouter ensuite ?
Alors justement, là, lors de la mission au Congo, Gilbert Rouget, donc, qui a fondé l'équipe CNRS à la fin des années 60, est parti sur le terrain avec des explorateurs pour essayer d'aller trouver les pygmées. Donc il a fait les premiers enregistrements de pygmées, cette fois-ci, pas sur cylindre, parce qu'il a insisté pour qu'on parte avec des machines pour graver des disques, où là, on avait 500 kilos de matériel pour alimenter, graver les supports qui étaient très lourds, les micros. Voilà, donc c'était toute une expédition. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus léger. Et donc, c'est les tout premiers enregistrements pygmées, je pense, du monde, faits en 1946. C'est un chant qui s'appelle Yéli, qui utilise une technique très particulière de yodel, de chant yodelé. C'est des polyphonies pygmées qui sont extrêmement caractéristiques et qui ont eu énormément de succès auprès des ethnomusicologues et même des scientifiques en général. On va se projeter en 1952, toujours avec Gilbert Rouget, qui a enregistré, qui a fait une mission en Mauritanie. Et là, c'était ses tout premiers enregistrements sur bande magnétique. Donc vous allez voir la différence de qualité. Ce qui est particulier avec cet enregistrement, c'est que c'est un des tout premiers enregistrements sur bande magnétique qui soit conservé dans notre collection. Donc pour moi, c'est un tournant, puisque les bandes magnétiques après ont été adoptées largement jusque dans la fin des années 90. Et c'est un support évidemment qui a eu une grande longévité et qui avait une qualité de son qui était déjà un progrès énorme. Une douzaine d'années, on s'est posé la question comment donner accès à ces archives. Et on s'est orienté vers une solution de plateforme en ligne open source pour donner accès à la fois à la base de données et au son numérisé.
Je m'appelle Aude Julien Lacrouse-Lima. Je suis ingénieure d'études au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative du CNRS et de l'Université de Paris-Nanterre. Et je travaille au sein d'une équipe qui est le centre de recherche en ethnomusicologie sur les ressources documentaires. Il y a plus de la moitié des enregistrements sonores en ligne qui sont en accès public, qu'on peut écouter donc en streaming. C'est déjà une porte ouverte fabuleuse sur toutes ces archives. Là, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, plein texte, sur les instruments de musique, les populations, les noms des chercheurs.
Ce player peut être intégré dans n'importe quel site web, ce que font des chercheurs ou des amateurs de musique ou des populations qui sont intéressées par ce patrimoine. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui là, une grosse majorité de nos utilisateurs qui passent par des blogs. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a des rebonds comme ça qui se font dans le temps et dans l'espace, qui permettent à ce patrimoine de rester vivant, en fait, parce qu'il est consulté, il inspire des musiciens d'aujourd'hui, et il n'est pas juste confiné dans des placards chez nous, quoi.
C'était important pour vous, justement, pour le centre de recherche en ethnomusicologie, que tous ces sons, que tout ce patrimoine sonore puisse être diffusable et diffusé à l'extérieur?
Bah, c'est très important parce que ce patrimoine, il n'est pas qu'à nous, il appartient à l'humanité, j'allais dire, à des populations surtout.
Oui, puisque dans beaucoup de pays, il n'y a pas toute une infrastructure institutionnelle, culturelle, ni les infrastructures techniques qui permettent et de conserver et de valoriser le patrimoine musical. Le service qui est rendu par cette plateforme, c'est un service qui est rendu à l'ensemble des populations concernées.
Quels autres types d'enregistrements on peut aussi retrouver sur le site du CREM?
Il y a un ensemble de disques emblématiques publiés par l'équipe. Donc c'est une aventure d'édition phonographique qui a commencé en 1946 au Musée de l'Homme, à laquelle a ensuite collaboré le CNRS. Donc c'est une collection qui est connue sous l'appellation les éditions phonographiques du CNRS Musée de l'Homme. Et donc de 1946 au début des années 2000, il y a une grosse centaine de disques qui a été publiée, d'abord des 78 tours, puis beaucoup de vinyles et des rééditions sous forme de CD. Une sélection qui couvre l'ensemble des continents. Et donc toute cette collection qui depuis est hors commerce, épuisée, a été mise en ligne sur le site pour l'ensemble des disques qui ont été publiés pendant 50 ans.
Là, je peux vous faire écouter une berceuse enregistrée par Bernard Lorta-Jacob au Mali, chez les Touaregs, et donc qui fait partie de cette anthologie des expressions vocales.
Il y a une ouverture maintenant de la discipline, justement sur des sujets peut-être moins traditionnels qu'auparavant. C'est pas uniquement une discipline orientée sur des musiques en danger, mais c'est aussi, on voit depuis plusieurs années dans sciences humaines et sociales, tout un mouvement de sound studies, donc qui s'intéresse au son en général, à l'écoute, à la perception comme un trait culturel en fait, et qui font que les archives sont aussi en train d'évoluer sur des problématiques aussi d'environnement sonore qui sont pas uniquement liées à la musique. Par exemple, il y a une personne, Christine Guillebeau, qui est chercheure au Centre de recherche en ethnomusicologie, qui travaille donc sur les environnements sonores et qui a fait des enregistrements en Inde, dans la rue, liés à des manifestations politiques, à des cortèges de dignitaires. Et au fil de l'enregistrement, on sent toute la modification de l'espace sonore liée à ces événements, sans aborder la musique en particulier.
Pour faire un tour dans les archives sonores du Centre de recherche en ethnomusicologie CNRS Musée de l'Homme, rendez-vous sur le site archives.crème-cnrs.fr. Et vous pouvez aussi retrouver sur le site de la Bibliothèque européenne, Europeana, une exposition virtuelle consacrée à la mission Ogooué-Congo menée en 1946.